Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Nous arrivons au 7e épisode, nous sommes au mois de juillet, nous enregistrons le 28 juillet. Et le CKB Show, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un podcast qui traite essentiellement des Chromebooks, de Chrome OS et de tout ce qui gravite autour des applications, des extensions, mais également du matériel Chromebook, Chromecast, Chromebit, Chromebase et bien sûr tout ce qui va arriver avec Android, les applications Android. Pour ce nouvel épisode, nous avons toujours l'immense honneur d'avoir avec nous Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour Nico, ça va très bien. Écoute, on a cette fois-ci repris nos horaires habituels, donc c'est l'après-midi pour toi et c'est très tôt le matin pour moi. Et je pense que je devrais être assez réveillé, ça devrait bien se passer aujourd'hui.
Ça va, n'hésite pas, le café, donc si tout le monde entend une cuillère ou un sucre tomber dans un liquide, c'est Thomas qui se resserre une tasse de café, hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais. De mon côté, je suis plus à l'apéritif, moi.
Je vais essayer d'être discret.
Pas de souci. Alors, au programme de ce CKB Show, au programme de ce nouvel épisode, nous avons plusieurs choses à vous montrer, à vous expliquer. Donc, évidemment, nous allons traiter des news, comme toujours, parce que Chromebook et Chrome OS évoluent au quotidien. Et on a quelques news très, très intéressantes. Et pour pas changer, on va parler d'un dossier assez conséquent qui devrait, je l'espère, vous plaire à tous et surtout vous ouvrir les esprits et nous donner beaucoup, beaucoup de retours dans les commentaires de ce podcast. Alors, sans transition aucune, on va directement passer aux news parce que il y en a quand même quelques-unes. Et Thomas, t'en avais relevé deux ou trois, peut-être même un peu plus, qui étaient très très intéressantes pour nous.
Ouais, exactement. Alors la première news, je pense que c'est le genre de news dont on parle assez régulièrement dans le podcast pour les habitués. Et c'est une news en fait qui nous vient de l'observation du code source de Chromium. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait Chrome OS est basé sur le navigateur Chrome et en particulier sur la version open source de Chrome, qui est le navigateur développé par Google. Et donc le fait que ce soit open source, ça veut dire qu'en fait le code source qui permet le code informatique, en gros pour le dire simplement, qui permet de faire fonctionner ce logiciel, est en fait accessible au public. Et pour les développeurs qui veulent s'intéresser à la question, ils peuvent aller voir l'intérieur de les entrailles en fait de Chrome. Et donc le projet open source en tant que tel s'appelle Chromium. Et il s'avère que il y a des petits malins qui ont remarqué qu'il y a eu du code qui a été ajouté à Chromium qui permet le support de comment est-ce qu'on dit en français, c'est pull to refresh en anglais, mais le fait de comment est-ce qu'on dit là faut vraiment que tu m'aides, tu vois, j'allais dire que j'étais réveillé, c'était le matin, mais
moi j'allais dire glisser pour rafraîchir, mais c'est pas tout
voilà,
à fait la traduction,
voilà,
mais c'est un peu ça
que je
cherchais, quoi.
Ouais, voilà, le glisser pour rafraîchir, merci pour la traduction. Et en fait mais ouais, on a tous un peu, pour ceux qui utilisent Facebook, Twitter, etc. sur mobile ou même Gmail, vous avez sûrement l'habitude de faire ce geste-là qui consiste à glisser pour rafraîchir. Et en fait, c'est vrai que c'est ce genre de geste, c'est pas forcément ce qu'on a tendance à, enfin c'est pas forcément quelque chose qui est très très courant sur les machines de bureau. Mais je pense que le fait d'ajouter ça au support, alors pour l'instant c'est vraiment caché, quoi. C'est vraiment le code a été mis là, mais la fonctionnalité est pas forcément activée et je pense que ça prendra encore un petit peu de temps avant que ce soit officiellement annoncé et que Google se mette à officiellement annoncer le support de cette fonctionnalité. Mais le fait que ça arrive, ça témoigne d'un truc dont on vous parle souvent dans cet épisode, dans ce podcast, c'est le fait que les Chromebooks vont de plus en plus se tourner vers le tactile et du coup il faut s'attendre à voir de plus en plus d'interfaces et de types d'interactions utilisateurs qui sont propres mobiles arrivés sur nos Chromebooks, puisque les Chromebooks vont être tactiles quasiment tous en fait pour les dans les mois qui viennent,
hein. Ouais, forcément, puisque toutes les applications Android qui vont débarquer sur les Chromebooks ont besoin alors peut-être pas toutes, mais je dirais 95-98% du temps du tactile pour interagir plus rapidement et plus facilement avec l'application. Mais ça, c'est génial. Voilà, on voit la convergence entre les deux OS. On sait qu'ils vont garder Android, on sait qu'ils vont garder Chrome OS, mais en fait, comme on le dit tout le temps, ils prennent le meilleur de chacun pour le mettre dans l'autre et ils vont se retrouver avec deux OS qui sont vraiment juste exceptionnels dans quelques temps. Pour moi, ils le sont déjà. Hein. J'ai fait un tatouage Chrome sur mon épaule déjà, donc du coup, c'est bon, c'est réglé. Mais ouais, c'est juste bluffant. Donc, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Vous glissez la page vers le bas et pouf, ça rafraîchit. Moi, je l'utilise sur mon smartphone Android et du coup, quand je vais utiliser ma tablette, ça y est, j'ai déjà transformé mon Chromebook en tablette. Oui, il est convertible, il passe avec la charnière rotative, il passe à 360 et du coup, il est en mode tablette et hop, on glissera vers le bas avec deux doigts d'après ce que j'ai compris et ça va rafraîchir automatiquement la page une fois qu'on sera arrivé au bout de celle-ci. Ça va être super sympa en fait. Moi je pense alors pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'écran tactile sur leur ordinateur, ils peuvent se dire non mais j'en ai pas besoin, je fais ça avec mon trackpad et puis c'est bon. Bah oui, mais c'est la même chose, mais sur l'écran. Et je peux vous dire que au quotidien, quand on a un écran tactile, c'est difficile de repartir sur un autre, même sur un ordinateur. Moi, au quotidien, j'utilise que des écrans tactiles avec tous mes ordinateurs sont tactiles. Et j'ai oublié presque la souris des fois. Je l'utilise que très rarement pour faire des fonctionnalités un peu plus pointues, plus précises. Mais ça va être super sympa.
Ouais, exactement. Ouais, vas-y.
Non, je te laisse la priorité. C'est toi, c'est tes news.
Donc voilà, donc c'est une petite annonce comme ça qui a l'air de rien, quelque chose qui est un peu qu'il a fallu aller débusquer en regardant le code source de Chrome, mais qui préfigure bien de la direction encore une fois qui est prise par Chrome OS. Alors par contre, donc là on vous parle des choses qui vont arriver. On va aussi sans transition aucune. Non, il faut quand même que je fasse une transition. Donc après avoir parlé des choses qui arrivent bientôt, je vais vous parler des choses qui vont bientôt disparaître.
Ah non.
Qu'est-ce que tu penses de cette transition?
Ah c'est bien, mais à chaque fois que tu me dis ça, en fait, à la fin, elle disparaît pas. Tu te souviens du Samsung Pro et plus qu'on avait dit, il viendra pas, mais en fait, il est bien dû.
C'est vrai,
tant mieux alors.
Ouais, c'est vrai qu'on. Donc a priori, alors pour l'instant c'est ce qui est officiellement annoncé par Google, donc on verra, peut-être qu'ils vont se contredire dans les mois qui viennent, mais apparemment ils ont officiellement annoncé la fin de l'éditeur vidéo YouTube. Alors est-ce que tu as utilisé, Nicole, l'éditeur vidéo YouTube et est-ce que tu savais qu'il existait ?
Alors moi je savais qu'il existait parce que j'essaye désespérément depuis des années de faire du montage vidéo sur mes ordinateurs. Mais vu que je suis tellement nul, même avec l'éditeur YouTube, j'y arrivais pas. Enfin si, je faisais des images classiques, je colle trois images, je mettais une transition, mais c'était pourri. Et je l'avais essayé et j'avoue ne pas y être retourné, mais je sais qu'il y a beaucoup de nos lecteurs qui l'utilisent parce qu'on a eu beaucoup de questions à un moment donné. Un de nos lecteurs nous a écrit un article complet sur l'éditeur YouTube et lui s'en sert beaucoup, donc lui il va être sûrement déçu, donc je pense à toi Olivier, désolé.
Ben c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois moi c'est en lisant cet article là donc sur ton blog que j'ai découvert que YouTube avait un éditeur et je pense que c'est un peu ça le problème en fait, c'est que il y avait probablement 3 ou 4 personnes qui étaient au courant que ce truc là existait et sur ces 3 ou 4 personnes il y en avait peut-être 2 qui l'utilisaient de façon assidue. Dont Olivier, donc, qui t'a écrit l'article sur la question. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'était un outil d'assez simple, assez basique, mais qui avait l'avantage d'être gratuit et d'être pleinement intégré à YouTube. Et donc, YouTube Google a décidé d'annoncer la mise à la retraite de cet outil-là à partir de la fin septembre. Et donc, y a pas forcément de très très bonnes alternatives gratuites pour le moment, on va dire. Donc c'est voilà, à tous les vidéastes amateurs qui avaient l'habitude d'utiliser cet outil-là, malheureusement, il va falloir qu'ils trouvent un autre moyen pour éditer les vidéos sur Chromebook.
Alors justement, Olivier va nous faire d'autres articles parce que il est assez fan de vidéos. Il nous a déjà écrit un article sur WeVideo. Je ne sais pas si tu l'avais vu ou si tu connais simplement l'application, qui est quelque chose assez sympa, qui est gratuit dans la mesure où la vidéo n'est pas très longue. Alors je crois que c'est 10 minutes maximum en gratuit, puis après tu es payant.
D'accord.
Ou alors il y a le logo WeVideo qui apparaît en haut à droite, enfin sur la vidéo. Et ça en fait partie. J'ai cherché un peu, hein, quand j'ai vu la news, j'ai cherché un petit peu. Il existe des applications Android qui fonctionnent sur Chromebook. Ouais. Je les ai pas essayées parce que, comme je te l'ai dit, je suis nul. Alors du coup, s'il y en a un qui veut se tenter à tester une des applications, qui me demande celle que j'ai trouvée, si lui il les a pas ou elle, hein, tant mieux. Je serais ravi de passer tous les liens. Par contre, je suis très très nul là-dessus et j'avoue mon incapacité à faire quelque chose de bien.
Mais ouais, c'est ça. Je pense que l'alternative, à mon avis, sera peut-être probablement à regarder du côté d'Android. Mais bon, on sait que le support d'Android sur Chrome OS marche bien. Si vous êtes des habitués de l'émission, vous êtes au courant. Malgré tout, je suis pas complètement certain que ce soit aussi facile et aussi bien intégré que quelque chose qui fonctionnerait dans le web, dans le navigateur. Et puis l'avantage de Google, c'était que c'était connecté à toutes vos photos. Il y avait la possibilité de synchroniser j'imagine en tout cas, parce que je l'ai pas utilisé, mais synchroniser toutes vos vidéos via Google Drive, etc., etc. Donc là, ça rend le processus un tout petit peu plus compliqué, en fait.
Moi, ce que je pouvais regretter avec YouTube, la version, enfin le logiciel qu'ils enlèvent là, l'éditeur vidéo, c'est qu'en fait, il fallait déjà uploader sa vidéo. Et l'upload de vidéo, c'est quand même super long. Et moi, j'ai une connexion d'internet qui est plutôt pourrie. Je suis en upload à moins d'un méga. Donc, quand j'envoie une vidéo qui fait 100 mégas, je te laisse deviner combien de temps j'attends. Donc, du coup, c'est pour ça que je m'étais essayé à des applications, offline, si on peut s'exprimer comme ça, avec Android, où on pouvait faire le traitement avant, la post-production avant de l'uploader. Et l'intérêt aussi, c'est que je pouvais compresser la vidéo pour l'envoyer. Vous voyez toutes les vidéos que je fais, de toute façon, c'est pas génial. Hein. Faut pas se leurrer, c'est pas la peine de me dire que si, même si vous êtes très sympa et que vous allez tous dire « mais si, Nico, c'est beau », je me lance des fleurs hein, de temps en temps. C'est normal, hein, tout va bien. Et du coup, moi, ça m'embête un peu, mais pas plus que ça. Enfin, c'est ma façon de voir. Après, chacun verra midi à sa porte. Mais je pense que Google va pas lâcher l'affaire comme ça.
Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est quand même un outil. S'ils veulent qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent YouTube et qui mettent des vidéos en ligne, ils ont quand même besoin de se positionner avec une offre solide de ce côté-là. Donc je comprends pas exactement la démarche en fait. Peut-être que c'est, je sais pas, une restructuration des équipes ou une restructuration de leur produit, parce que je sais que c'est un outil qui existe aussi sur Android. Donc peut-être qu'ils ont l'intention de recréer un peu l'outil ou de faire un meilleur outil qui fonctionnerait aussi sous Chromebook, mais avec une version Android. À suivre. Je pense que ça va pas disparaître complètement, mais c'est vrai que là on est un petit peu dans l'expectative, on va dire, à ce niveau-là.
Mais comme tu le disais, c'est pas bête en fait. C'est, à mon avis, ils vont le sortir de YouTube, tout simplement de la plateforme YouTube, pour en faire une application tierce complètement indépendante. Comme ça, on pourra peut-être aussi s'en servir pour mettre. Il y a d'autres plateformes sur Dailymotion par exemple. On pourra peut-être se servir de l'application YouTube, une petite pub par-ci par-là pour Google qui leur fera gagner quelques milliards supplémentaires par heure. Et peut-être qu'ils veulent essayer de faire une plateforme plus générique, plus générale, qui touchera peut-être plus de monde. Et du coup, je sais pas, peut-être, hein, une bonne. À suivre en tout cas.
À voir.
Je le mets dans mes to-do list.
Ouais. Et donc ça c'était l'instant YouTube. Je vais faire un petit truc. On va improviser un petit peu là. Je vois qu'il y a un ordre de news intéressant. On va continuer à parler de YouTube, figure-toi, et on va parler de YouTube Red et de Google Play Music.
Moi, je suis fan de.
Non, mais en fait, pour vous expliquer l'histoire, on a une information sur YouTube, une information sur quelque chose qui a rien à voir avec YouTube, et une autre information sur YouTube. Et je me dis, tant qu'à faire, autant regrouper ces deux informations autour de YouTube et les donner l'un après l'autre. Voilà. Vous avez les coulisses.
T'es en train de dire que le mec qui a écrit les notes et l'éveil, il l'a mis dans le mauvais sens, c'est ça?
Non, j'ai pas.
Je vais lui en parler. Je lui toucherai deux mots.
Donc voilà.
Je vais toucher deux mots tout à l'heure. Je le vire. Salut tout le monde, hein, merci. Hein.
on apprend aussi. Hein, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas des professionnels de la radio ou de la télévision. C'est des petits trucs qu'on apprend avec l'expérience. Donc YouTube Red. C'est pas disponible en France YouTube Red encore. Hein. Tu confirmes?
En France, il n'y a pas ça. Je sais même pas ce que c'est. Red, d'accord. Pour moi, c'est l'opérateur SFR.
D'accord. Donc, alors, en fait, c'est vrai que c'est un nom assez bizarre. C'est un truc que tu vois beaucoup quand tu utilises YouTube aux États-Unis, mais finalement, tu comprends pas forcément le nom. C'est vrai que le nom est assez bizarre. Ça fait penser, tu sais, au truc de Bono, là, la ligne de produits Red,
ouais,
qui collecte de l'argent pour la lutte contre le sida.
Bah, c'est peut-être
et
ça.
En fait, ça n'a rien à voir.
Non, ah bon, tant pis.
Ben, je pense pas. Enfin, ou alors, tu vois, leur positionnement marketing est tellement bizarre qu'ils n'ont pas réussi à véhiculer ça correctement.
Ouais.
Non, mais je pense que c'est pas ça. Je pense que l'idée, c'est d'avoir YouTube qui fonctionne offline et d'avoir aussi accès à tout un tas de contenus, comment dire, exclusifs sur YouTube. Donc, tout un tas de séries et de contenus original qui est pas disponible en dehors de l'offre Red. Et puis t'as aussi quelques petites fonctionnalités complémentaires, genre par exemple tu peux pour les gens qui utilisent beaucoup YouTube pour la musique,
ouais.
Ça se fait beaucoup chez les jeunes en particulier. Là, YouTube Red par exemple te permet d'écouter de la musique qui vient de YouTube sans avoir l'application YouTube ouverte, donc tu peux en gros réduire l'application, faire autre chose et la musique continuera à jouer derrière. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre comme positionnement, parce que c'est tout un tas de fonctionnalités un peu hétéroclites, il y a des contenus originaux. Enfin c'est un peu bizarre, mais c'est l'offre payante de YouTube. Et donc il semblerait que ils aient l'intention de faire fusionner ça avec Google Play Music. Alors est-ce que tu l'utilises un petit peu, toi, Google Play Music, Nico?
Ouais, c'est ça. Alors Google Play Music et YouTube Red vont fusionner complètement a priori d'ici quelques mois pour n'avoir plus qu'une seule offre en fait, pour être enfin plus compréhensible par tous, parce que a priori ils aimeraient une convergence entre les deux et que il n'y ait qu'un seul abonnement pour les deux. Alors nous en France on n'a pas eu la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'avoir YouTube Red parce que je sais pas pourquoi encore. Donc YouTube Red, comme tu disais, c'est des contenus exclusifs, c'est plein de choses. Moi perso je suis utilisateur de Play Music. C'est il y en a qui vont utiliser, c'est un peu la guerre comme partout entre Spotify, Deezer ou Play Music. Ben moi je suis Play Music, mais en même temps ça va super bien avec mon Chromebook. Et je serais super intéressé d'avoir en plus YouTube Red. Je suis très consommateur de vidéos en plus, donc du coup avoir ça en plus sur mon abonnement, ça serait cool. J'utilise Netflix, j'utilise OCS, j'utilise Prime Video. Donc si je peux avoir en plus YouTube Red, je serais super content. Et donc ça a été annoncé, c'est The Verge qui a, c'est l'interview de du PDG, ouais. Enfin du, alors je sais pas si c'est le PDG, le responsable de YouTube qui annonce ça dans un interview avec The Verge. Intéressant.
Ouais, c'est pas le PDG, parce que le CEO de YouTube est une femme.
Ah bah, ou c'est peut-être là, j'ai pas fait attention, mon anglais est pas très bon.
C'est un des responsables, un des exécutifs de YouTube, ouais, ouais. En effet. Je suis en train de parcourir l'article, et c'est vrai que il y a au passage l'article que t'as mis là que t'as partagé dans le doc mentionne aussi l'existence de YouTube Music, qui est encore une version particulière de YouTube, qui était destinée à l'écoute de la musique et qui a plus ou moins été abandonnée, je pense, au profit de YouTube Red. Mais enfin, c'est vrai que YouTube galère quand même un petit peu pour créer du contenu original. Enfin, pour créer plutôt une offre payante plutôt. Et le contenu original justement est pas du même calibre que ce que tu peux trouver. Alors nous ici on a Netflix comme en France, mais il y a aussi Hulu, il y a aussi HBO, il y a quand même beaucoup de comment dire, d'applications, enfin, ou de services qui proposent du contenu original de très 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 bonne qualité. YouTube est quand même très 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 loin de ça, quoi. C'est en général des petites séries semi-professionnelles ou professionnelles, mais de qualité très moyenne, en tout cas en termes de moyens.
Et tu l'utilises, toi, YouTube Red?
Alors je crois qu'on a eu on a utilisé la période d'essai pendant un petit moment. On n'a pas forcément été convaincu, et peut-être que je l'utiliserai encore un petit peu. Et comme toi, j'utilise beaucoup YouTube pourtant, mais ouais. Tu vois, j'ai pas eu l'envie de passer à YouTube Red. Faut savoir que je crois que c'est 9,99 $ par $12,99 par mois.
Ah ouais, quand même.
Donc c'est quand même une somme, ouais. Enfin c'est en gros, ça s'ajoute à tous les autres abonnements pour que je peux payer ici, entre le Hulu, HBO, Netflix, etc., etc. Ça s'ajoute. Hein. Donc pour l'instant, je me suis dit que c'était pas forcément un truc qui m'intéressait. Mais à voir un petit peu comment les choses vont évoluer dans le futur. C'est clair que je me vois pas payer à la fois pour Google Play Music et pour YouTube Red et pour Spotify et pour Netflix. Donc je pense que YouTube a besoin de consolider. Enfin, c'est une assez bonne idée de consolider un petit peu les offres histoire d'avoir une offre un petit peu plus compétitive par rapport à la
compétition. Ouais,
puis
pourront vanter d'avoir des millions d'abonnés face à Netflix qui tous les mois disent qu'ils ont récupéré un million de plus et ainsi de suite et ainsi de suite. Ils pourront se positionner avec un vrai vivier de clients peut-être pour avoir des exclusivités vidéo. Bon, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que nous, utilisateurs, on va peut-être y gagner en termes de contenu, en termes de coûts. Et puis surtout, c'est hyper bien intégré sur nos Chromebooks. Enfin, moi, Play Music, je l'utilise parce qu'en fait, une extension qui permet d'avoir le lecteur musique direct en bas à droite dans la barre des notifications. Tu vois, je fais la convergence entre Android et Chrome OS. Mais dans la barre tout en bas, en fait, ça me permet d'avoir play, avance rapide, retour rapide, changement de chanson et compagnie. Donc grâce à cette extension, on peut vraiment bien travailler sur l'application. Enfin voilà, donc sur ce, c'est une extension, c'est une petite news qui est super intéressante et qui va évoluer, qui va nous donner l'accès à beaucoup de choses plus tard et un contenu plus riche. Si on continue dans les news, on va parler d'une autre news assez intéressante qui encore est là pour la convergence entre nos Chromebooks et nos mobiles Android, puisque un autre commit est arrivé qui nous parlerait de la réception et de l'envoi de SMS directement sur nos Chromebooks. Alors ce qui est assez bluffant, c'est que c'est une chose qui existe déjà directement, mais qui n'était pas dédiée de Chromebook, qui n'était pas fabriquée par Google. Et là, Google commence à se poser la question de permettre de recevoir nos SMS directement sur notre appareil et avec une nouvelle fonctionnalité de multi-device. Et cette fonctionnalité va nous permettre de lier. Alors, on sait pas encore comment. Je sais pas encore comment ça sera mis en place, mais a priori, il faudra mettre en liaison. Alors, est-ce que ce sera avec notre compte Gmail? Est-ce que ce sera avec une connexion Bluetooth à notre appareil? Ou est-ce que ce sera une connexion avec une application tierce? En tout cas, aujourd'hui, j'ai pu activer sur mon Chromebook la réception et l'envoi de SMS depuis mon Chromebook dans les paramètres de l'appareil. Par contre, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Il a fallu que j'active un flag, un drapeau. Mais ça présage de quelque chose de super intéressant parce que ça manque pas mal. Ça manque pas mal à Chrome OS. Et d'ailleurs, on utilise au quotidien d'autres extensions, donc vous avez été nombreux à m'en parler sur le site. On utilise une application de notification qui s'appelle Page Bullet, qui marche plutôt bien, qui marche même très très bien, et Nighty Text qui marche également super bien. Alors, c'est des offres qui sont déjà disponibles via des extensions, qui sont complètement gratuites et qui fonctionnent avec la liaison sur son compte. Donc, c'est plutôt intéressant à utiliser et ça ouvre encore des portes à nos amis Chrome OS et à nos Chromebooks, ce qui fait que maintenant, vous n'aurez même plus besoin de prendre votre téléphone portable en main pour lire et recevoir un SMS. Alors, aujourd'hui, moi, perso, j'utilise encore Hangouts qui fonctionne très très bien, la liaison entre les deux, Google a annoncé il y a quelques temps qu'ils allaient arrêter Hangouts. Alors du coup, on se prépare au pire. Et c'est peut-être aussi en liaison avec une autre application qu'on entend, qu'on a vue, qui a été développée par Google il y a maintenant un an, je crois, qui s'appelle Allo ou Duo. Je ne sais pas si vous l'utilisez déjà. Alors moi, je cherche des gens pour utiliser Allo parce qu'elle commence à devenir de plus en plus performante. Je ne sais pas si Thomas, tu utilises ces trucs-là à l'eau, tu l'utilises toi un petit peu ou pas du tout?
Alors j'ai fait partie des gens qui l'ont installé au tout début quand elle est sortie et j'ai trouvé 3-4 personnes qui l'utilisaient. On l'a utilisé pendant une semaine et puis après on s'en est plus jamais servi. Duo, c'est un petit peu la même chose. L'avantage de Duo, c'est que c'est quand même le meilleur moyen de faire de la visio sur Google, enfin sur Android. De la même façon que FaceTime fonctionne sur iOS. Alors il y a Hangout aussi, Mais
bah ouais, moi j'utilise, ce que je te disais, ouais, j'utilise un Gout qui marche très très bien en fait.
Ouais, c'est vrai que pour la visio ça marche pas trop mal, mais Duo était quand même bien fait du point de vue de l'ergonomie. C'était quand même un bel outil, mais c'est vrai que en termes d'utilisation et d'usage c'est pas trop ça. Mais je pense que Google va probablement insister un peu plus et le mettre peut-être un tout petit peu plus, lui donner un tout petit peu plus de visibilité dans le futur. Mais l'histoire du Vas-y.
Je pense que Duo va disparaître très prochainement parce que dans Halo, en fait, maintenant, ils intègrent D'accord. la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vu. Moi, je le garde installé pour de temps en temps jeter un œil, savoir D'accord. si ça fonctionne toujours bien. Et ils ont installé... maintenant, il y a un petit curseur qui te permet de passer en mode texte, en mode voix ou en mode D'accord. vidéo. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, tu peux passer des appels pareil que sur Duo. Et il y a aussi... Alors, en France, toi, tu l'as... Déjà, mais en France, on n'a encore pas Google, comment ils appellent ça, Google Assistant.
Mmh, ouais, c'est ça.
Et il est intégré dans l'application Halo.
D'accord.
Donc c'est plutôt sympa, ça m'a permis de jouer un petit peu avec. Donc voilà, du coup, la réception et l'envoi des SMS sur Chromebook, c'est finalement des briques qui viennent s'embriquer, si je peux me permettre, les unes aux autres, et on va bientôt avoir, enfin je l'espère, nos SMS, enfin tout ça directement sur nos appareils. On n'aura même plus besoin, comme je le disais, de sortir nos smartphones de nos poches pour pouvoir écrire, échanger, enfin faire tout ce qu'on veut, on pourra se passer du téléphone. T'en penses ouais. quoi, toi, de cette news?
Si, je pense que c'est une très très bonne idée. Je pense c'est un peu là pour le coup, Google a quand même un petit peu de retard. Hein, faut dire ce qui est. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps sous Mac. C'est quelque chose qui a été lancé sous Windows aussi avec leur système la Continuity qui marchait donc entre un téléphone Windows et un ordinateur Windows. Alors après, bon, les Windows Phone, il n'y a quand même pas grand monde qui les utilise. Mais...
Effectivement.
Mais on va dire qu'en termes d'usage, c'est pas...
Ça n'existe plus, non?
Là, maintenant, ils n'en fabriquent plus, donc il va y avoir encore moins de personnes. Mais c'est vrai que c'est un usage qui n'est pas... Bon, là, pour le coup, c'est quand même pas révolutionnaire et c'est peut-être quelque chose sur lequel ils auraient pu avancer un petit peu plus vite. Mais malgré tout, c'est quand même assez intéressant de voir que ce truc-là va arriver et va généraliser.
Est-ce qu'il s'était pas reposé sur le fait que, tu sais, comme les extensions PageBullet et Nightwish Nighttext existent, pour ne pas les faire, ils se sont dit, bah, il y en a qui l'ont fait pour nous, pourquoi on se prend la tête à le faire? Je sais pas.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, mais bon, malgré tout, c'est quand même mieux de contrôler l'expérience et d'intégrer ça directement au système d'exploitation. Après, ça doit poser aussi tout un tas de challenges techniques auxquels on pense pas forcément, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas que ce soit très très compliqué en tant que tel, mais tu vois, tu veux être sûr d'envoyer les bons SMS au bon endroit, au bon compte, et que quand le compte se déconnecte, être sûr que tu continues pas à envoyer des SMS. Enfin bon, c'est des choses qui paraissent assez simples, mais qui peuvent être un petit peu compliquées pour être sûr que ce soit à la fois très fiable et en même temps très sécurisé, qui peuvent peut-être prendre un petit peu plus de temps, on va dire. Donc voilà, donc je pense qu'ils veulent le faire correctement, et donc du coup ça prend peut-être un petit peu plus de temps que pour des applications tierces pour lancer ce genre de fonctionnalité. À voir ce que ça va donner, mais c'est clair que c'est un truc maintenant, c'est presque indispensable et il est temps que ça
ouais,
arrive,
surtout
quoi.
Qu'ils ont tout,
c'est
hein.
mon point de vue sur la question.
Ils ont tout, ils ont Android, ils ont un Chromebook, ouais. Ils ont vraiment tout maintenant. Bon bah c'est cool, c'est que des bonnes ouais. nouvelles finalement, à part YouTube et l'éditeur vidéo qui disparaît, tout le reste c'est génial, c'est vraiment des évolutions qui vont nous donner encore plus de joie et d'envie d'utiliser nos Chromebooks. Alors maintenant qu'on a parlé de toutes les news, on va attaquer le dur du podcast, le mastodonte du podcast, c'est le dossier. Alors vous avez l'habitude, maintenant on fait un dossier par épisode, ça va peut-être changer. Hein. Donc d'ailleurs, dites-nous si vous avez envie qu'on travaille ou qu'on échange différemment. Aujourd'hui, on a choisi un dossier qui nous semblait être intéressant, qui est les usages de Chrome OS et évidemment de tout ce qui gravite autour, les Chromebooks et ainsi de suite. Et on a un peu, enfin, en tout cas, je parle pour moi, je parle pas pour toi, Thomas, parce que je peux pas savoir, mais en tout cas, j'ai un peu galéré à trouver, à expliquer tous les usages qu'on pouvait avoir parce qu'il y en a tellement. Et je me suis dit, est-ce que ces usages, ce sera pas aussi dédié à n'importe quel autre appareil? Bref. Et bon, on a finalement trouvé un dossier assez fourni et Eh ben, on va échanger ensemble, je pense, et ce sera le plus simple. Alors, moi, les premiers usages que j'ai vus et qui pourraient ne pas être vus par tout le monde, pas être utilisés par tout le monde, c'est l'affichage digital. Je pense que tu sais ce que c'est, Thomas, qu'un affichage digital. Enfin, tu dois savoir, toi, dans la ville où tu es, il doit y en avoir partout.
Ouais, un petit peu, mais peut-être pas autant qu'on pourrait penser, en fait. Mais ouais, je vois bien. Quand tu dis affichage digital, tu parles d'affichage public, hein. On est bien d'accord.
Ouais, c'est ça, l'affichage public. Ouais, ça peut être les 4 mètres par 3 mètres. Alors ça peut être un vulgaire bout de papier qu'on imprime, qu'on colle. Hein, ça, c'est ce que vous connaissez tous dans vos villes françaises et compagnie. Et puis à d'autres endroits, bah c'est des écrans géants. Il y a des endroits où, enfin, aux États-Unis, pour moi, il y a que ça. Hein. Après, j'idéalise le truc.
Ouais, j'en ai un sur la façade de la maison. D'ailleurs, là où j'habite, on a un grand 4 par 3 avec des trucs qui s'affichent. Genre, bienvenue à la maison Thomas qui clignote quand je rentre le soir. Et...
Ah ouais, t'es blindé, toi, quand même. Ah ouais, on gagne bien quand t'es là-bas.
Je pense que t'as une vision. Tu penses qu'en fait, aux États-Unis, tu ressembles à Times Square et on a des affiches publicitaires qui clignotent partout. Mais je pense que c'est quand même réservé au centre-ville. Des plus grosses villes et c'est vrai que c'est pas peut-être pas aussi commun que ça, mais par contre oui, au Japon ou en Corée où on voit ou même en Chine on a cette vision un peu de la ville futuriste avec des grands affichages et des grands écrans. Ouais, c'est peut-être plus en Asie qu'on trouvera ce genre de choses.
Bon, c'est pas grave, en tout cas, ça va arriver partout. Enfin, pourquoi ça va arriver partout? Ben parce que, en fait, Google, il y a déjà un petit moment, ils ont développé une... Ah, je vais te laisser le lire, parce que c'est en anglais, puis je suis fatigué, j'arrive pas à tout lire en ce moment.
Mais, ouais, donc ils appellent ça le Chrome-based signage.
Oh putain, c'est tellement bien dit. Oh pardon. Moi, j'aurais pas fait mieux que ça, hein, c'est clair.
Mais ouais, c'est super intéressant. En fait, en gros, c'est quelque chose qui pourrait plus ou moins déjà marcher avec une Chromebox, mais là, ils ont carrément fait du matériel dédié, en fait, pour ce genre d'affichage, comme tu disais, des grands écrans, comme on voit à New York, à Times Square, qui nous affichent des publicités, que ce soit de la vidéo ou des animations, ou des panneaux publicitaires animés. Et donc l'idée, donc si j'ai bien compris, c'est d'avoir un boîtier qui soit dédié à ça et qui fonctionne sous Chrome OS.
C'est ça, ouais, complètement. Alors pourquoi ils ont choisi ce Chrome OS? Bon bah de la part Google, c'est un petit peu évident, hein, c'est leur OS, mais il y a énormément d'avantages d'avoir Chrome OS sur ce boîtier. Alors ça peut être un boîtier, mais alors moi je l'ai vu fonctionner près de chez moi, dans des villes pas loin de chez moi en tout cas, où je vais donner un exemple, c'est peut-être plus parlant, un restaurant chinois, enfin qui vend un restaurant chinois quoi, normal. Ils avaient une carte qu'ils mettaient à jour régulièrement et il fallait qu'ils les impriment parce qu'ils voulaient pas l'écrire à la main parce qu'il écrit pas très bien le gérant. Et donc il a cherché une solution pour pouvoir afficher ses menus. Et les changer, mettre des photos de ses menus, des choses comme ça, quelque chose de très interactif en fait. Et finalement, il est parti sur Chrome OS, enfin sur ce système-là. Il a pris un Chromebook, il l'a installé sur son appareil et il a mis une télé en fait simplement sur l'écran extérieur de sa vitrine. Et ben maintenant, il y a ses menus qui défilent et il y a accès à distance. Et il a choisi Chrome OS et c'est je veux pas le dire, c'est un peu moi qui l'ai aidé, mais il a choisi Chrome OS parce que pour moi il n'y a que ça de viable. Non, c'est pas vrai, mais parce que c'est sécurisé, c'est stable et surtout c'est hyper rapide. Et c'est comme Windows, c'est du plug and play. Vous le branchez, ça marche. Il suffit juste de choisir ce que vous voulez afficher sur l'écran. Et c'est juste génial parce qu'il peut le faire depuis la maison aussi. Il n'est pas obligé d'être au restaurant pour le faire. Ouais. Et il affiche ses menus, il change ses tarifs quand il veut. Il rajoute des photos. Il allait un peu plus loin parce qu'il vend cet espace publicitaire. Ça m'a fait rire. Du coup, il propose son écran à des commerces du coin et il met les pubs de ses voisins. C'est finalement marrant. Et il les facture. Et donc il a transformé sa vitrine de restaurant entre chaque menu qui tourne, il a une pub et c'est super malin, moi ça m'a fait sourire en tout cas. Et il fait ça depuis la maison, bon avec deux bouts de bois et un morceau de ficelle, mais il s'en sort super bien et c'était pas son truc. Et je peux te dire que l'informatique c'est loin de ce qu'il maîtrise. Il maîtrise très bien les baguettes chinoises. Mieux que moi, hein. Moi le riz j'arrive pas à le manger avec mes baguettes, mais lui il maîtrise. Par contre l'informatique il m'a vraiment surpris avec ce système là, avec Chrome OS. Et moi, je lui ai installé physiquement le matériel parce que voilà, je lui en avais parlé. Il a acheté tout ça. Il m'a dit, bah, est-ce que tu veux venir m'installer ? Je l'ai installé et il s'est débrouillé pour tout le reste. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Donc, c'est un des usages qu'on ne connaît pas. En tout cas, enfin, moi, je m'étais pas vraiment penché sur la question avant. Et ça marche très très bien. Je sais pas si toi, dans ton entourage, tu as eu une expérience sur l'affichage digital ou dynamique.
Eh ben, pas exactement, mais il y a quand même un parallèle qui se fait avec le visioconférence. Et c'est vrai que nous, au boulot, on a des stations. Alors, je sais plus exactement comment s'appelle la solution exactement, mais on utilise de la visioconférence à base de Chrome OS. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on a donc quand la visioconférence ne fonctionne pas, en fait, tu peux afficher des photos. Donc, t'as des photos, les mêmes photos que d'ailleurs sur votre Chromecast, si vous utilisez un Chromecast. Et donc ça, c'était ouais, donc t'as des jolies photos de paysage et tout. Ouais. Et au début, on avait ça, et en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi un bon moyen d'en profiter pour faire de la pub pour la société. Et donc, on a remplacé les photos de paysage qu'on retrouve sur les Chromecast par des photos très corporate qui mettent en avant les produits ou le service sur lequel on travaille. Et donc, du coup, quand les gens visitent le bureau ou les gens qui viennent de l'extérieur, en fait, on en profite aussi pour utiliser ces écrans de visioconférence dans les salles de réunion pour promouvoir un petit peu l'image de le service et l'image de marque de la société.
Tu vois, il avait raison, mon petit chinois. Il a eu raison, ouais, sauf que lui, il commercialise son espace.
J'en profite pour changer les photos de fond d'écran et faire payer les gens qui me passe des photos.
Ouais. Ça s'appelle pas un ransomware, ça? C'était donc ça. Deuxième usage qui... Alors ça, vous n'allez pas être surpris, hein, sincèrement. Enfin, si vous êtes surpris, c'est que vous n'écoutez pas le CKB Show et que vous lisez rien du Chromebook, de My Chromebook. Vous n'êtes jamais renseigné une seule fois sur cet appareil. C'est l'outil. Alors, un Chromebook et Chrome OS, c'est juste l'outil idéal pour l'apprentissage. Tu le savais,
c'est un outil génial au point que, en fait, j'utilise. je sais pas si ça existe en France. Udemy, ça te dit quelque chose, non? Le système d'apprentissage en ligne. En fait, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement en ce moment parce que je suis en train de me former à des nouvelles technologies. Et l'avantage, en fait, c'est que comme tout ce qui fonctionne en ligne, eh ben ça fonctionne très très bien sur un Chromebook. Et donc du coup, quand je suis au boulot, j'utilise le Mac que j'utilise au quotidien. Mais dès que je rentre à la maison, je peux reprendre mon Chromebook et continuer la leçon ou le cours là où j'en étais et continuer à regarder les vidéos, à répondre aux quiz, etc., etc. Donc tu vois, à mon propre niveau, je me rends compte que même si je suis plus à l'école depuis bien longtemps, je me rends compte que pour l'apprentissage, c'est vraiment vraiment idéal Chromebook.
Et ben en plus pour aller plus loin, donc j'ai sorti cette news d'une des pages de Google qui a carrément mis l'accent dessus. Mais en même temps, c'est pas très étonnant puisque les Chromebooks ont explosé le marché américain. Donc je vais pas vous reparler des chiffres, on vous en parle assez souvent. Il nous donne une visibilité, des témoignages d'utilisateurs, et il y en a des dizaines et des dizaines, et c'est assez intéressant à lire, avec des projets qui sont tous plus sympas les uns que les autres, avec des projets School Day One to One, en gros un ordinateur pour un élève, un ordinateur pour apprendre tout le temps, enfin des choses comme ça. Il y a énormément de projets qui sont mis en avant et qui montrent la facilité d'utiliser un Chromebook dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine éducatif. Et ces témoignages sont souvent des enseignants, mais il y a également des élèves qui expliquent que en fait un Chromebook, c'est facile à gérer. Alors ça, c'est les enseignants, principalement les gestionnaires de flux, ils sont parfaits pour utiliser la puissance d'internet. Bon, ça tout le monde le savait puisque c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et c'est des appareils qui sont stables, qui sont rapides. Et comme on le disait, c'est également des appareils qui sont multi-utilisateurs. Donc un seul appareil peut convenir largement à une dizaine de personnes et sans avoir accès aux données de l'autre utilisateur de ce Chromebook. Donc ça, c'est super sympa comme utilisation. Mais vous le saviez tous, et je voulais juste remettre un peu l'accent dessus parce que ça arrive progressivement en France. On a des écoles en France qui commencent à s'équiper de Chromebook. Et il n'y en a pas qu'une, je peux vous l'assurer. Il y en a, moi j'en ai déjà référencé 5 ou 6 avec des parcs qui sont assez impressionnants pour des écoles françaises et qui remplacent très avantageux avantageusement les iPads. Toi, t'as personne, toi t'es plus à l'école, t'es comme moi, mais t'as personne qui, à part toi, qui apprend sur un Chromebook, j'imagine. Enfin,
autour de moi, c'est quand même pas aussi commun que ça, mais ça arrive de plus en plus, et en tout cas les gens s'y intéressent, on va dire, de plus en plus. Enfin, je me rappelle quand il y a pas si longtemps que ça, quand on a commencé à faire l'émission, les gens me regardaient un petit peu bizarrement quand je leur parlais des Chromebooks et de la magie des Chromebooks. Je me rends compte que de plus en plus les retours sont de plus en plus intéressés par les gens. Donc je pense que je pense qu'il faut vraiment, enfin, on le dit suffisamment ici, hein. Je pense que le Chromebook c'est vraiment une des plateformes du futur et à mon avis ça va vraiment s'imposer dans le futur pour tout un tas d'usages et en particulier les usages éducatifs.
Oui, mais pas que. Alors tu l'as déjà abordé le sujet finalement tout à l'heure parce que tu nous dis que toi dans ton taf au quotidien, enfin sur dans vos bureaux, vous utilisez à titre professionnel les solutions Chrome OS.
Pour
la visioconférence, donc ce qui est déjà bien, puisque il y a quelques années tu utilisais Skype, j'imagine, comme tout le monde, forcément, puisqu'il n'y avait que ça de vraiment fonctionnel. Et au fur et à mesure, alors c'est arrivé par le marché de l'éducation, les Chromebooks, les Chrome OS, et puis ça vient progressivement sur le marché professionnel. Alors moi, avec mon exemple de mon restaurateur qui affiche en dynamique ses menus, qui affiche un menu digital, il est tout content. Alors ça paraît anecdotique comme ça, mais je pense que ça va progresser au fur et à mesure. Et toi qui utilises la visioconférence avec Chrome OS, donc déjà on a deux exemples qui sont opposés, et toi t'es dans une structure qui est quand même plus construite qu'un simple petit restaurant de quartier, qui est peut-être que t'es en bourse toi d'ailleurs, mais on voit pas encore, ça va pas tarder, hein, avec vos concurrents qui ont des problèmes, ça devrait pas tarder, vous allez devoir avoir besoin de fonds très rapidement. On voit que ça arrive sur le marché professionnel, et c'est là que c'est intéressant parce que ça va. Je pense, hein, j'y mettrai un billet, peut-être pas un gros billet, mais 100 ou 500 euros maximum. Ah, c'est plus gros qu'on est, nous. Je pense que ça va arriver progressivement chez tous les professionnels. J'ai un autre exemple, justement, dans l'usage du professionnel, qui paraît, quand on y réfléchit, c'est tellement évident, mais quand on n'y a pas réfléchi, on peut pas aller sur ce marché, on peut pas aller là. C'est un autre exemple, c'est encore un restaurateur, on va croire que je passe mes journées au restaurant. J'ai un autre restaurateur qui me demandait, et je passe tous mes midis au restaurant en fait, hein, pour info, c'est vrai. Qui me demandait si il existait un système pour enfin enlever sa vieille caisse enregistreuse toute vieille qui n'était pas forcément aux normes. Il y a des nouvelles normes en France qui arrivent pour les restaurateurs. Et je l'avais déjà équipé il y a quelques temps je l'avais conseillé sur des tablettes Android. Et il s'avère que, tant mieux, cette tablette Android, il a aimé à un moment s'en servir. Il utilise une application Android et figurez-vous que cette application Android, elle fonctionne super bien sur un Chromebook. Donc, on a enlevé sa caisse enregistreuse, on a mis un Chromebook et maintenant, il a une caisse enregistreuse sur son ordinateur portable, sur son Chrome OS. Et juste avec l'application, il a relié tous les appareils autour de lui. Et le pire, c'est que ça lui coûte une misère par rapport à avant. Et en plus, il est sur les nouvelles normes qui vont atterrir en 2018. C'est déjà tout fait, donc hyper simple. Il boot son truc, son ordinateur en quelques secondes. Ça, vous le savez, c'est Chrome OS qui veut ça. Il utilise une application qui est hyper hyper connectée. Donc, il a accès à tout, tout le temps, partout avec ses logs. Ce qui est génial, c'est qu'il a des serveurs. Donc, il sait je vais pas vous expliquer ce qu'est une caisse enregistreuse, mais il a la main dessus à distance. Et il a le côté sécuritaire où toutes ces données sont sauvegardées sur un serveur, et ça Chrome OS le fait super bien puisque c'est principalement du online. On en a parlé un petit peu, tu trouvais ça bien quand même, Thomas, d'avoir une application Android fonctionnelle sur Chrome OS qui pouvait tout sauvegarder?
Ouais, exactement. Et du coup, la question que je me posais, c'est en t'écoutant parler, c'est ça marche comment en fait? Il y a une vraie caisse enregistreuse physique qui est connectée au Chromebook, c'est ça?
C'est ça, en USB.
En USB.
En USB, il est connecté sur son port USB. Alors, c'est un USB 3.0, enfin, peu importe. En fait, c'est pas une caisse enregistreuse qu'il a. Il a juste une boîte métallique blindée, là, je sais pas quoi, où il met l'argent dedans, c'est tout, en fait.
D'accord.
Et le Chromebook lui sert de caisse enregistreuse. D'accord. Toi, c'est les écrans tactiles que tu vois dans les restaurants un peu partout, ouais. En fait, où ils se baladent, ils te prennent ta commande sur leur tablette ou sur une espèce de calculette géante, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mm-hmm. En fait, c'est la même chose. Sauf que il est plus tributaire d'une entreprise qui lui loue le matériel.
D'accord.
Donc c'est super intéressant. Il a acheté un Chromebook, il l'a acheté. Je lui ai fait acheter un Acer, mais voilà. C'est un Acer le 13 avec un écran tactile. Il voulait un écran pas trop petit, donc 13 pouces c'est plutôt bon. Il voulait une grosse autonomie parce qu'il le branche pas tout le temps, alors que bon, on s'en fiche. À 390 €, il va pouvoir en racheter parce que avant il louait son matériel, ça coûtait assez cher. Il louait des avant que je lui enlève les tablettes, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est pas des calepins, ils notent dessus. Ils ont un espèce de stylet tout bizarre qui marche pas toujours très bien, ils cliquent et puis ils obtiennent des menus. Je l'avais déjà intégré sur une tablette et maintenant cette tablette est connectée directement au Chromebook.
D'accord.
Et la prochaine étape, c'est en fait d'intégrer la même chose dans la cuisine, en fait, qu'il ait les commandes directement et que ça ne s'imprime plus sur des bouts de papier. Parce qu'aujourd'hui, le cuisinier, le chef cuisinier, reçoit ça sur un. Enfin, il a des bons de commande qui sortent au fur et à mesure. Et ça peut arriver. Des fois, ils se perdent. Des fois, ils sont mal imprimés parce que l'imprimante avait plus d'encre ou le papier, c'est du papier thermique. Il était mis à l'envers au début du service.
D'accord.
Ou quelque chose comme ça. Et grâce à ça, en fait, on va avoir un affichage dynamique, digital, directement dans la cuisine. Et on va se passer de tout ce qui est papier, en fait. Ça, on n'aura plus besoin, l'encre, il n'aura plus de problème. Et si son appareil tombe en panne, ça lui aura coûté moins cher parce qu'il n'y aura pas de maintenance. Il aura juste à racheter un appareil, il se relogue et il récupère tout ce qu'il avait instantanément. Quoi. Et ça, c'est la force des Chrome OS et de Chromebook et puis des applications qui viennent derrière s'appuyer sur ce système-là. Et c'est vraiment assez bluffant et ça marche très très bien. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien que ça. Donc après, moi j'ai mis dans les liens de l'émission, j'ai mis un lien vers une des applications qui travaille avec ce système là. Il y en a des tonnes, hein, je vous assure, c'est vraiment insoupçonné le nombre d'applications qui existent autour de ça. Donc si vous êtes restaurateur, réfléchissez un petit peu à ça, c'est peut-être intéressant pour vos budgets
et appelez Nico qui se fera un plaisir. Et appelez Nico qui se fera un plaisir de venir vous installer le matériel au restaurant.
Ouais, contre un repas. Hein. Tu vois, je suis pas cher quand même. Ah, faut que je me déplace,
cool.
Tout et... ça.
Ouais, non, mais c'est bon, t'as retrouvé une potentielle reconversion après a priori. T'avais un autre exemple aussi, toujours pour les professionnels.
Toujours pour les fraudes. Ouais. Alors pareil, ça touche encore une fois. C'est pas les multinationales, c'est pas les grosses structures. Quoique, ça peut-être les aider pour la gestion au quotidien de leur équipe, des choses comme ça. Mais il y a un truc qui est assez intéressant. Maintenant, on parle de dématérialisation, de cloud, de stockage dans les nuages. Enfin, plus rien n'est dans votre appareil. Et ça, c'est plutôt bien parce que grâce à, on perd son appareil, on se le fait voler, on tombe en panne, on en reprend un nouveau, on se relogue et c'est parti. Alors c'est redondant, je vais vous le dire très souvent ça, mais c'est quand même un des points forts des Chromebooks et je pense qu'on ne peut pas l'éclipser. C'est vraiment le côté sécuritaire de tout avoir. Et aujourd'hui, il y a une structure strasbourgeoise qui s'est montée il y a maintenant un peu plus d'un an, qui travaille sur la dématérialisation du bureau. Vous savez, votre bureau que vous avez chez vous, vous avez votre ordinateur fixe avec un écran, avec un clavier, une souris, des fils, des trucs comme ça. Et puis, vous avez 50 000 onglets différents, un pour parce que vous envoyez beaucoup de choses à la poste, un parce que vous avez un comptable, il veut passer par ce logiciel-là, hein, parce que vous avez un site internet et je passe. Enfin, on pourra avoir des tonnes d'exemples. Je sais pas si tu en as un peu, Thomas, mais l'agenda, par exemple, l'agenda collaboratif, on peut avoir des. Vous faites de la 3D, des choses comme ça. Tout ça, en fait, cette société-là, ils ont tout réuni en un seul et même endroit sur une plateforme qui vous est propre, dédiée. Et en fait, tu te connectes à ta page et tu tapes tes identifiants, tes mots de passe et paf, t'as accès à tout. Donc, c'est tout structuré, tout rangé. En fait, t'as un bureau virtuel comme s'il était posé. T'as ton agenda qui était posé à côté de ton bureau avant tu l'ouvrais. Maintenant, tu vas cliquer dessus, t'auras accès directement à Google Agenda. Alors, ça paraît, il suffit juste de cliquer sur Google Agenda. Ouais, mais je peux vous assurer qu'au quotidien, avoir tout en un coup d'œil sur la même page, C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Je vais citer l'entreprise parce qu'ils m'ont invité à plusieurs reprises et je les en remercie. On échange beaucoup. Ça s'appelle Je gère mon biz. C'est je gère.biz, en fait. Je gère mon.biz. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est plutôt intéressant. Il y a évidemment tout ce qui est... bureautique, tout ce qui est avec les outils Google Sheet, les projets, les choses comme ça. Vous pouvez, et ils vont personnaliser la chose. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, d'avoir, je sais pas si je m'exprime bien, je suis peut-être pas bon commercial pour eux, du coup, là. Mais,
Non, mais si.
Il y a tellement de choses à dire.
Je pense qu'on a bien compris. Ouais, l'idée, c'est de créer un bureau dématérialisé, donc qui se concrétise, en gros, par une page d'accueil, en fait, sur le navigateur. C'est ça, hein.
C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Clairement ça.
Et c'est vrai que...
Et tout est accessible.
Ouais, et c'est un truc qui se voit quand même. Je pense que si vous travaillez dans des grosses boîtes, je pense que c'est des choses qui se voient de plus en plus. En fait, on a le portail, entre guillemets, le portail en ligne de la société, que ce soit une page de l'intranet ou un wiki ou un truc comme ça, qui va nous regrouper tous les liens pour accéder à tous les outils qui sont utilisés en interne. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on commence à utiliser un petit peu là où je travaille pour avoir en particulier la centralisation de comment est-ce qu'on appelle ça, de l'accès pour l'authentification en fait. En gros, on n'a plus besoin de se loguer à chacun des services qu'on utilise. On va se loguer à une seule plateforme et après cette plateforme va permettre de nous authentifier à toutes sortes d'applications tierces en fait. Et du coup, ça centralise l'authentification et puis ça permet aussi de couper l'accès, par exemple, à des gens qui s'en vont de façon plus simple.
Ouais, c'est ça, oui, mais c'est exactement ça en fait, ouais. C'est une plateforme, une seule plateforme pour tous les outils d'une entreprise. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'ouvre à des toutes petites entreprises où tu es tout seul. Tu peux être seul dans ton entreprise et grâce à ça, t'as accès à tout le temps. Donc, t'es dans ta voiture, t'as besoin de tes données qui sont dans ton bureau avant, fallait rentrer, tu perds un temps infini. Bah là, tu cliques et pouf, t'as accès à ta page. Je le fais bien, pouf. Hein. T'as accès à ta page. Tant que ça, ta page directement avec tout ce que tu as besoin au quotidien pour bien prendre tes rendez-vous, pour t'as ton Google Maps qui te permet de calculer une zone de chalandise par exemple, le montrer à ton client, t'es en face de ton client, ça fait très pro, tu dis ben voilà, je colle tout de suite votre agenda, tac, tu le mets dans un agenda commun avec lui si jamais il y a des choses à faire avec des échéances, c'est vraiment super bien fait. Ouais. Ils regroupent des outils qui existent, c'est pas eux qui les inventent, mais ils ont tout regroupé dans un seul bureau et je peux vous dire que et ils s'appuient sur un truc. Alors pourquoi j'en parle? Parce que déjà c'est online, bon bah voilà, donc forcément ça marche sur nos Chromebooks, mais surtout ils mettent en avant les Chromebooks parce que c'est des appareils qui sont hyper légers, hyper pas chers et une fois qu'on l'a testé, ben techniquement il y a très très peu de monde qui partent de Chromebook, même s'ils peuvent avoir un appareil supplémentaire à côté pour des outils spécifiques, mais la plupart des gens qui ont testé un Chromebook ils sont enfin maintenant, peut-être pas ceux qui ont testé les Chromebooks les premiers jours de leur sortie, mais ceux qui testent les Chromebooks maintenant restent sur Chromebook quoi.
Et c'est vrai que ouais, on en parle beaucoup parce que c'est des usages qui maintenant sont complètement disponibles sur le web. Et donc du coup qui sont complètement disponibles sur les Chromebooks, on n'a plus besoin d'avoir, tu parlais de l'agenda par exemple, je pense que c'est le meilleur exemple, les gens qui ont utilisé Lotus Notes ou qui ont utilisé Outlook à une certaine époque s'en rappellent bien, on n'a plus besoin d'avoir cette espèce de grosse, faut pas que je dise cette espèce parce que c'est très péjoratif, mais on n'a plus besoin d'avoir ce gros, je dis encore gros. C'est vrai que c'était vraiment la croix et la bannière pour utiliser ce genre d'outils. Et là, aujourd'hui, tout fonctionne directement en ligne. Et on a pu avoir installé, avoir à entrer les licences pour pouvoir être sûr que cet outil qui va tourner juste en local, juste sur une machine, fonctionnera bien correctement, se synchronisera bien avec le serveur, etc., etc. Non, ces outils-là maintenant fonctionnent en ligne et finalement on peut y accéder de n'importe quelle machine. L'exemple du Chromebook passe sous les roues d'une voiture ou prend l'eau et d'un coup se met à plus marcher. C'est vrai qu'il suffit simplement de récupérer une nouvelle machine, de se reloguer et hop, on a tous ces logiciels qui fonctionnent comme si de rien n'était.
Ouais, pour les pros, c'est hyper sécurisant de te dire. J'ai eu un exemple, c'est une personne, enfin un lecteur de My Chromebook qui m'en parlait, il me dit j'adore mon Chromebook, ça y est, c'est officiel, je l'adore. Alors il l'adorait pas avant visiblement. Il l'avait acheté, alors je sais pas pourquoi exactement au départ, mais il l'achetait à titre professionnel et il stockait quand même quelques données. Il stockait quelques données, il travaillait principalement en mouvement avec ce produit-là, donc dans ses déplacements de bus. Alors il prend le bus, le pauvre, je le plains, mais dans ses déplacements de bus, il avait des longs déplacements, il passait comme ça. Et il y a quoi, il y a une semaine, il m'a envoyé un message en me disant ça y est, j'adore mon Chromebook, parce qu'en fait dedans il avait des données, je veux dire un peu sensibles pour son entreprise. Alors elles n'étaient pas stockées dedans, elles étaient dans le cloud. Donc déjà il les a pas perdues, qu'il a pu continuer à travailler. En fait il n'était pas très réveillé ce jour-là, il avait pris le bus et puis il s'est endormi, il a plié son Chromebook, il l'a mis entre la paroi du bus, parce qu'il était contre la fenêtre, et son siège, dans le trou là que t'as toujours au milieu qui amasse tout et n'importe quoi. Et ben là ça a amassé un Chromebook, et il est arrivé à son arrêt de bus, il est descendu et le Chromebook lui il a continué sa route. Et il arriva à son rendez-vous sans ordinateur, il s'en est aperçu quand il en avait besoin. Et là, il a piqué l'ordinateur de la personne qui était là, de la personne avec qui il devait échanger. Il s'est logué, il a tout retrouvé. Et dans la foulée, il a allé recommander un Chromebook. Et deux, trois jours après, il a récupéré son Chromebook, il a recommencé comme si rien ne s'était passé. Et c'est là qu'il a décidé à m'écrire en me disant « J'adore mon Chromebook, j'adore parce que j'ai rien perdu, j'ai pas perdu trois semaines de travail, quoi. »
Voilà, pour les pros, je pense que c'est ça. Ouais, et tu es obligé finalement de partager, de mettre ça en ligne. Donc c'est vrai que l'argument qu'on nous donnait assez régulièrement au début, c'était quand on n'a pas de connexion internet, et ben ça marche plus. Mais en fait aujourd'hui, on a tendance à avoir beaucoup d'internet partout, et puis ça fonctionne pas trop mal offline. Ouais. On peut taper des documents en hors ligne par exemple, et puis dès qu'on récupère le réseau, ça se synchronise. Et donc finalement, ce mode de fonctionnement par défaut, en fait, c'est résilient à le matériel qui disparaît ou le matériel qui arrête de fonctionner parce que c'est conçu pour fonctionner sur le web et pour se synchroniser par défaut, quoi.
C'est ça, et c'est au quotidien, franchement, je dirais même confortable pour notre esprit. Tu vois, t'as plus le stress de perdre ton matériel, parce que si tu te balades avec quelque chose d'important, des données importantes, avant, tu te dis, putain, faut pas qu'il tombe en panne mon PC, parce que je suis mal. J'ai fait des sauvegardes, j'ai un disque dur à la maison, j'ai un serveur à la maison, j'ai dans mon bureau, j'ai des clés USB. Aujourd'hui, c'est pas très grave. Avant que le serveur de Google tombe en panne, c'est possible qu'il tombe en panne, mais ils ont des sauvegardes, quoi. Si un serveur tombe en panne, l'autre prend le pas direct, et on se retrouve. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème pour accéder à mes données à distance. Depuis toujours, j'ai aucun souvenir d'une fois où j'ai pas pu accéder à Google Drive, en fait. Donc, moi, je pense que c'est sécurisant, et pour les pros, ça peut l'être aussi. On est plus serein.
Exactement. Et donc du coup, alors pour récapituler, on a parlé de l'affichage digital, on a parlé de l'éducation, on vient de parler des pros.
Ouais.
Donc il y a une autre section, un autre groupe de personnes pour lesquelles le Chromebook est particulièrement adapté, et ce sont les blogueurs. Alors raconte-nous ça.
Alors je me considère, enfin je sais pas si je peux me considérer blogueur, mais j'ai un blog et puis je mets des choses régulièrement dessus, donc on peut dire.
Donc je pense qu'on peut te considérer comme un blogueur. Je pense que c'est la définition.
Même si c'est pas mon métier, je suis blogueur passionné. Complètement gratuit, mais c'est pas grave, c'est ça m'amuse. Et du coup, vous le savez, tous ceux qui nous suivent le savent, tous ceux qui nous écoutent, je n'ai plus d'ordinateur sous un autre OS que Chrome OS. Alors j'ai, rien que là sur mon bureau, là, pendant qu'on fait l'enregistrement, je compte 1, 2, 3, 4, 5 Chromebooks posés sur mon bureau. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu trop, hein. Oui, c'est peut-être un peu trop, mais je suis très content de les avoir parce que j'en ai un qui est sous Canary, le canal hyper pas stable de Chrome OS. J'en ai un qui est sur le canal, Dev, canal bêta, et puis l'autre qui est sur le canal, le premier, le stable. Donc ça me permet de voir toutes les évolutions de Chrome OS pour pouvoir vous donner beaucoup, beaucoup de renseignements, enfin le plus possible en tout cas, et chacun est d'une marque différente. J'ai un HP, j'ai un Samsung, j'ai un Acer, j'ai un Lenovo, et puis un Samsung, ça compte pas, j'ai deux Samsung en fait. Et du coup, pourquoi j'utilise plus rien d'autre? Parce qu'en fait, je me suis aperçu que mon usage quotidien, c'était du blogging. Et le blogging, c'est quoi finalement? C'est faire des captures d'écran, c'est faire du texte, c'est écrire du texte, c'est surfer sur internet pour trouver des niches, des informations, c'est discuter avec des gens, envoyer des emails, partager sur les sites communautaires, Facebook, Twitter, MySpace. MySpace, ça existe encore? Non, je sais pas. Je suis vieux quand je dis ça, non? Oubliez, j'ai pas dit ça. Mais Google Plus évidemment. Et ben je n'utilise qu'un Chromebook pour faire ça parce que c'est pour moi l'outil ultime des blogueurs. Je ne vois pas à quoi servirait un outil, un Mac. Déjà, c'est trop cher, un Mac, pour faire ça, pour faire du texte. Ça me permet, moi, j'utilise un CMS pour le blog My Chromebook qui s'appelle WordPress, qui est le plus connu mondialement, qui fonctionne forcément sur Chromebook puisqu'il est online, donc il fonctionne sur Chromebook. Il fonctionne très bien sur Chrome, évidemment. J'ai besoin d'un navigateur web. Bon, Chrome, ça reste le premier mondial, faut pas se le cacher. Donc, tant qu'à faire, autant que mon site soit compatible avec Chrome, puisque si c'est 80% du marché, autant que je touche 80% du marché mondial, ce qui n'est pas le cas, je ne touche que le marché francophone pour l'instant. Mon anglais étant tellement mauvais que je ne me risque pas à traduire mes textes. Et puis il est toujours, il est en permanence accessible. Je l'allume, ça met 2 secondes, j'ai pas besoin de passer 10 ans à faire les mises à jour. J'ai rallumé un Windows il y a 2 semaines là, parce qu'on voulait utiliser une application. Bref, on a abandonné. Il s'est mis à jour. Je l'ai pas utilisé du tout. Je l'ai allumé. Il a lancé une mise à jour. Ça a passé. Au bout de 20 minutes, j'ai abandonné. J'ai dit c'est bien. Allez, on va faire autre chose. On va passer nos 20 minutes à chercher une application équivalente qui fonctionne sur Chromebook. On a trouvé. On a refermé le Windows et il est au placard. Il dort dans un placard. Je crois que je vais m'en débarrasser pour être sûr qu'il soit pas là, quoi, en fait. Et là, j'ouvre mon Chromebook. C'est quoi, ça boot en 3 secondes, 5 secondes, je sais même pas, c'est tellement rapide que j'ai même pas eu
secondes,
le temps de couper.
10 secondes, c'est vraiment qu'il est lent, quoi.
Ah, il est lent, c'est un vieux de la vieille,
Et, c'est plutôt 2 à 3 secondes,
C'est ça. Et en fait, quand j'ouvre mon Chromebook, la première page qui arrive, parce que Chrome garde en mémoire tout ce que j'ai fait, en plus, ça c'est génial. Donc, je ne perds jamais mes surfs, mes navigations, tout ce que j'ai fait la veille au soir avant d'aller me coucher, je l'ai encore le lendemain. Ça, c'est pas une news pour personne. Et du coup, j'ai accès à tout le temps. Et moi, je peux vous dire que c'est vraiment l'outil. Pour un blogueur, si vous voulez lancer dans un blog, achetez pas un ordi à 1 500 €. Achetez pas, on a besoin de rien. On a besoin d'un Chromebook et ça va très très bien. Et rien que pour ça, je repasserai pas autre chose. Enfin, je sais pas si je vous ai convaincu de devenir blogueur. Bon, c'est pas à moi de vous convaincre. Faites ce que vous voulez. Parlez de vos passions, c'est le mieux pour devenir un bon blogueur, je pense. Et mais l'outil à utiliser, c'est celui-ci, quoi.
Ouais. Non mais c'est clair que c'est on est d'accord, on est je pense que c'est vraiment et puis c'est un outil qui est assez abordable, encore une fois, enfin il y en a pour tous les prix, mais globalement ça reste même les plus chers sont finalement assez abordables. Donc
oui, parce que quand on parle du plus cher, on est à 500 €.
Ouais, c'est ça.
C'est des accès à Android maintenant. Donc c'est plus juste un Chromebook, c'est plus juste un ordinateur. Il remplace tout. Avant, on disait qu'un ordinateur remplaçait déjà beaucoup de choses, mais là, il va remplacer votre tablette, il va bientôt remplacer votre smartphone en réception de SMS. Il va remplacer. Je vais remercier Thomas en passant par là, parce qu'en fait, vous savez tous que j'ai un Samsung Plus, et c'est grâce à Thomas puisqu'il m'a envoyé gentiment le sien, parce que monsieur a décidé de passer sur le Pro. Donc il m'a envoyé le sien et moi ça m'a même remplacé mon calepin papier en fait. Je prends des notes directement sur l'écran avec Google Keep et du coup Google Keep est synchronisé avec Google Doc et comme ça quand j'écris mes articles j'ai tout côte à côte et ça va très très vite pour l'écriture. Enfin moi je trouve ça génial. Et enfin dernière chose, après je te relaisse la main Thomas si tu veux. J'ai écrit mon dernier article grâce à mon Chromebook avec l'application Voix de Google. Et je me suis aperçu qu'il était vachement meilleur que moi en français, en fait, Google. Tout ce que je disais, il l'écrivait et il faisait presque pas de faute, lui. Alors du coup, je vais peut-être continuer à écrire des articles par la voix. Je sais pas si tu l'avais lu cet article, mais il est vachement bien fait.
Ouais.
Alors ensuite, je vais vous parler de quoi ? Un autre usage. L'usage des Français sur Internet. Sur un ordinateur. Donc, il y a une étude qui a été faite. Il y a plusieurs études. Il y a toujours des études qui sont faites. C'est une étude qui a été faite. Alors moi, j'ai ciblé que les résultats français parce que le reste, c'est parlant. Mais aujourd'hui, j'ai peu de personnes qui nous écoutent des Anglais ou autre chose. Donc, on a ciblé sur la France et j'ai des chiffres qui sont assez bluffants. Des chiffres qui viennent de Médiamétrie. Ces chiffres, c'est tout bête, ça parle de l'utilisation des Français sur Internet. Et il s'avère que les Français passent par mois un certain temps sur Internet, que ce soit sur un smartphone ou sur un ordinateur. Et aujourd'hui, bon, ils ont sorti quelques sites. Alors moi, j'ai pris les 10 sites les plus visités en France, mais il y a un listing qui est assez impressionnant. J'ai pris les 10 sites les plus visités en France et les chiffres sont bluffants. Typiquement, je vais pas vous les citer les 10, je vais vous en citer 3 ou 4, pas plus. Le premier site le plus visité en France, c'est Google, forcément, le moteur de recherche, avec 40,4 millions par mois de visites. On parle de visiteurs uniques. Hein. Je vous rappelle, 40 millions, c'est beaucoup. On n'est pas loin d'avoir la totalité des Français. Hein. C'est 16 millions par jour. C'est 16 millions ? Tiens, j'ai un doute là. Par jour. Ensuite, non, c'est Facebook. C'est étonnant. Le deuxième qui arrive avec presque 27 millions. On a le moteur de recherche Bing qui arrive dans la foulée avec 24 millions. Enfin bref, je ne vais pas vous citer tous les autres. Il y a YouTube, on en a parlé en, juste en dernière, qui arrive en quatrième position. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on est devant un ordinateur, visiblement, on passe notre temps sur Internet. On peut croiser ces données-là avec une autre étude qui a été faite par Hootsuite et VR Social, qui a fait une étude sur le temps qu'on passait sur Internet. Je vous laisserai l'image, elle est juste saisissante. Ils ont classé tous les pays, les pays qui vont sur Internet, qui ont un accès à Internet et qui vont sur Internet. Et la France se positionne pas trop mal, avec 3h40 passées sur Internet uniquement depuis un ordinateur et 1h08 passées sur Internet avec un smartphone. Alors je me dis que 4h50 passées sur Internet, ça veut dire que nos Chromebooks sont largement suffisants. Quand on me dit qu'on n'a pas de connexion Internet et qu'on passe 4h50 sur Internet par jour, que fait-on d'autre dans la journée? Alors, certains vont peut-être utiliser des outils, tout ça, mais visiblement, les Français, la majeure partie des Français, vont sur Internet pour surfer, pour faire de la recherche, pour aller sur Facebook, pour faire du Microsoft, pour faire, peu importe, il y a des tonnes et des tonnes de choses, regarder de la vidéo, et du coup, un Chromebook, ça suffit largement aux Français. Donc, un usage qui est important, c'est Internet, et donc du coup les Chromebooks, c'est Internet, et donc c'est un des usages les plus intéressants aujourd'hui. Alors je crois que j'ai perdu Thomas, donc Thomas, est-ce que tu peux me dire un mot? Ah, on t'entend pas du tout. Je suis désolé Thomas, donc je vais te laisser te reconnecter si tu le souhaites. Je vais continuer à expliquer et tu vas revenir dans quelques secondes, je le sens. Donc du coup, oui, ce que je vous disais, il va revenir, il va nous expliquer tout ça aussi. Mais c'est juste génial un Chromebook parce que c'est du online et parce que ça sécurise tout. Tout ce qu'on va nous faire sur Internet, c'est ce qu'on fait au quotidien. On regarde nos comptes bancaires sur Internet, on surfe sur Internet, on surfe sur Internet, c'est un pléonasme, on vit sur Internet. Moi, je prends mes billets de train sur Internet, je commande mes places de cinéma sur Internet, je fais tout sur Internet. Enfin voilà, donc un autre usage, évidemment, c'est la connexion Internet, c'est l'utilisation globale des Français. Et donc, du coup, un Chromebook, encore une fois, ça fait déjà 4 fois que je le dis, on me dit qu'il faut dire 7 fois les choses pour que ça se comprenne, pour qu'on le retienne, mais je vais pas aller jusque-là. L'usage des Chromebooks va ravir presque 90% de la population française, donc c'est le quatrième usage que je peux vous dire sur nos Chromebooks. Voilà, je résume rapidement. On a dit qu'un Chromebook, ça permettait un affichage digital, c'était un outil idéal pour l'apprentissage, que c'était excellent pour le pro et ça allait évoluer et progresser encore plus, que les blogueurs sont vraiment intéressés par les Chromebooks, et maintenant c'est la globalité des Français qui peuvent se servir d'un Chromebook parce que ça couvre la plus grosse partie de leurs utilisations quotidiennes. Après tout ça, tous les usages, il y a un autre truc qui va nous intéresser, et du coup Thomas, qui a réussi à nous rejoindre à nouveau, va intervenir. Je suis de retour. I'll be back. on va parler un petit peu des applications qui sont utilisées, enfin que nous on utilise, alors, moi et toi Thomas, les autres, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de vos applications et lesquelles vous aimez le plus. Thomas, je te laisse la main sur, enfin la voix sur la première application.
Eh ben, en fait, c'est une application dont tu vas nous parler, Nico, parce que c'est toi qui l'as mise dans le document. Mais il y avait une application qui s'appelle Feeder, c'est ça, et qui est un lecteur de flux RSS. Ouais. Alors je connaissais pas du tout, mais ouais, j'ai regardé un petit peu et ça a l'air vraiment sympa. En fait, c'est vraiment le lecteur de flux RSS le plus simple et le plus minimaliste que tu puisses trouver, à ceci près qu'il marche à la fois sur sur Chrome OS par l'intermédiaire d'une extension et aussi sur Android et iOS, c'est ça?
C'est ça. Alors ça, c'est moi, je le kiffe. Les flux RSS, on peut expliquer un petit peu ce que c'est, parce qu'il y en a qui l'utilisent pas, qui savent même pas quoi. Enfin, je pense.
Ouais,
que
c'est vrai. Donc l'idée, c'est de s'abonner de la même façon qu'on pourrait s'abonner à un magazine, mais cette fois-ci, on s'abonne de point de vue d'un point de vue digital à un blog ou à un site internet pour recevoir tous les articles de façon automatique qui sont publiés sur ce blog ou sur ce site internet. C'est ça?
C'est ça, c'est une news régulière, ouais, c'est ça. On reçoit toutes les news du site. Alors là, c'est pour Chromebook, donc l'application Finder, c'est une icône qui apparaît dans l'URL, enfin pas dans l'URL, dans l'omnibar de notre Chromebook. Et dès qu'il y a une news qui apparaît, bah en fait, on a une petite bulle avec le nombre de news qui apparaissent et après on défile et on voit tous les sites qu'on suit. Alors moi, j'en suis une vingtaine. Et pourquoi j'utilise ça? Parce que je peux pas aller sur chacun des sites pour voir s'ils ont fait une mise à jour de leur site, s'ils ont rajouté des choses. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Je suis Google Realize, les mises à jour de Google, de Chrome OS en fait. Et je vais pas attendre, je vais pas rafraîchir ma page toutes les 5 minutes pour savoir si Google a fait une mise à jour sur le canal dev, sur le canal stable et compagnie. Donc du coup, moi, je l'ai intégré dans mon lecteur de flux RSS. Et dès qu'il y a une mise à jour, tac, ça apparaît. Comme ça me permet d'aller voir simplement la mise à jour, si ça m'intéresse ou pas. Et j'utilise celle-là parce qu'en fait, comme tu l'as justement dit, c'est fonctionnel sur Android et iOS. Alors iOS, je m'en fiche. Par contre, Android, c'est plutôt intéressant parce que dès que je vais surfer, moi, je fais partie des Français, comme je disais tout à l'heure, qui surfent 3h48 par jour. Mais moi, je le fais et sur mon smartphone et sur ma tablette. Donc, je dois être à peu près à 8 heures par jour de surf sur Internet. Dès que j'ai 30 secondes, en fait, je suis sur Internet. Donc, c'est cool. Du coup, dès que j'ai un site qui me plaît, eh ben, je le balance, qui a des news assez régulières et intéressantes, je le balance dans mon flux RSS. Comme ça, je l'ai en permanence partout où je vais. Et dès qu'il y a une news qui apparaît, tout que ça apparaît en dessus. Et j'ai plus qu'à lire si ça m'intéresse ou pas. En bref, moi, c'est l'application que je conseille à beaucoup, beaucoup de monde. Je préfère ça au newsletter, s'inscrire au newsletter. Il faut donner une adresse email, des choses comme ça. Je suis pas très très fan parce que j'aime pas donner mon adresse mail à tout le monde parce qu'après on est spolié, on se retrouve avec des spams de tous les côtés qui me vendent des voitures ou je sais pas quoi. Et là, on n'a rien besoin de donner au site internet. On a juste à cliquer sur ajouter et il trouve par défaut. Donc vous êtes sur la page du site internet, il trouve par défaut le flux RSS du site internet. Vous avez plus qu'à faire plus et lui dire le nombre de fois qu'il doit rafraîchir pour avoir les news en fait. Ouais. Donc voilà, moi je l'utilise au quotidien, je trouve ça génial.
Ouais, super. C'est bon à savoir. Et donc moi du coup j'avais aussi une application dont j'avais envie de vous parler rapidement. Je me rappelle il y a quelques temps tu nous avais parlé d'une application qui s'appelle Vector, donc V-E-C-T-R, ouais. Donc Vector.
C'est ça.
Vector. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Selon l'endroit où on habite, en Belgique ou au Luxembourg,
c'est plutôt Vector.
Voilà, moi, je vais vous parler de Figma, qui est un petit peu dans la même idée. L'idée, c'est d'avoir un outil de création graphique vectorielle, en fait. Les designers qui nous écoutent sont peut-être familiers d'une application qui s'appelle Sketch, qui est un peu devenue l'application de référence pour le développement, enfin pour le design graphique aujourd'hui. Et Figma, ce serait un petit peu le pendant online de Sketch. Alors pour la petite histoire, c'est assez marrant en fait. J'ai commencé à utiliser Figma en me disant ah ouais c'est marrant, je vais m'amuser un petit peu, voir ce qu'on peut faire sur Figma pour faire du design directement sur Chromebook. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des designers dans la boîte dans laquelle je travaille qui se posaient la question en postant des messages sur Twitter. Tiens, comment est-ce qu'on fait ça sur Figma, ou est-ce qu'il y a des designers qui utilisent Figma, ou qu'est-ce que les designers pensent de Figma. Donc je me suis dit tiens, c'est marrant, même si les designers professionnels se mettent à se poser la question de Figma, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder. Et en allant prendre mon café, parce que je prends mon café le matin ici, je vous raconte ma vie là, je prends mon café le matin quand on fait l'enregistrement, mais en général quand je vais au boulot, je m'arrête à un café sur le chemin. Je me suis rendu compte qu'en fait Figma était juste à côté de mon café préféré à San Francisco, donc peut-être qu'un jour je vais me laisser aller et je vais aller taper à la porte et leur demander demandé de me faire visiter les bureaux et discuter un petit peu avec les développeurs. Mais il s'avère que donc c'est une société qui est basée à San Francisco et qui a des bureaux donc sur le chemin de mon boulot à moi. Je pense que si vous vous intéressez au développement et que vous vous posez la question de, enfin au design plutôt, et que vous vous posez la question d'utiliser un Chromebook, encore une fois, jetez un coup d'œil à Figma parce que je pense que c'est une application dont on va en entendre parler dans les mois et les années à venir. Il y a un gros avantage par rapport à Sketch, c'est que ça permet une collaboration très 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 simplifiée en fait entre les designers d'une même équipe ou les responsables produits et les designers d'une même équipe, dans le sens où c'est en ligne, donc il suffit simplement d'ouvrir le navigateur que vous utilisez et vous pouvez directement voir les designs, vous pouvez directement commenter sur les designs, vous pouvez annoter les designs et collaborer. Plusieurs personnes peuvent collaborer sur un design en fait. Et je pense que c'est un avantage.
Et ça, moi, je peux l'utiliser, moi.
Tu peux l'utiliser, ouais. Tu peux l'utiliser. Alors.
Ouais, c'est pas réservé aux pros.
Non, alors par contre, c'est une application qui est payante à partir de. Je crois que il y a une version gratuite qui vous permet de l'utiliser en gros pour jusqu'à 3 projets, je crois, ou 2 projets. Et par contre, quand vous voulez avoir plusieurs projets, vous êtes obligé de payer. Je crois que c'est un abonnement mensuel. Donc encore une fois, je pense que leur positionnement est vraiment pour les professionnels. Je pense que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les designers pros se mettent à utiliser cet outil. Donc ça explique un petit peu le fait qu'ils aient une option gratuite, mais aussi une option payante. C'est encore une fois, on parlait des usages pros tout à l'heure. Alors c'est clair que les designers graphiques, ça fait pas aujourd'hui partie des usages pro de prédilection des Chromebooks, mais je pense que si ça doit arriver, à mon avis, une application comme Figma, ça pourrait être vraiment la porte d'entrée pour les designers pour passer
ouais,
sur
c'est ce qui leur manquait juste pour jeter leur Mac et puis arriver sur nos appareils sous Chrome OS en fait. Il leur fallait une application.
Alors je pense que ça prendra un petit peu de temps, mais si ça doit arriver, je pense que Figma a de bonnes de beaux jours devant eux.
Et toi tu l'utilises au quotidien? Enfin, t'as essayé en tout cas de jouer avec?
J'ai joué un peu avec. J'en ai parlé. J'ai dîné avec un copain designer hier et il en a parlé sans même que. Enfin, on parlait de plein de trucs, mais il a mentionné Figma sans même que je lui pose la question. Donc ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en entendent parler et qui savent que ça existe. Donc voilà. Je pense qu'à mon avis c'est pas la dernière fois qu'on parle de Figma dans ce podcast.
Ah, c'est cool. Donc le dernier podcast, vous vous souvenez, on commençait à développer sous Chrome OS, c'est ça, hein, c'est toi qu'on avait parlé, Thomas, où on commençait à avoir des applications pour développer des applications.
Ouais.
Un autre podcast, on avait parlé qu'on pouvait faire des podcasts avec un Chromebook. Aujourd'hui, moi je vous dis qu'on peut faire de l'affichage digital, on peut faire, on peut avoir une caisse enregistreuse, on peut faire de la visioconférence. Enfin, en bref, on fait tout avec un Chromebook. Donc, dans peu de temps, sincèrement, les autres, ils serviront plus à rien. Je sais même pas pourquoi ils continuent à essayer de faire des trucs comme Windows 10S ou je sais pas quoi, autant aller directement sur un Chromebook, prenez le train en marche pendant qu'il va pas
trop
vite.
C'est ça, exactement.
Enfin voilà quoi.
Voilà.
Bon, je pense que c'était le mot de la fin. Hein,
exactement.
Hein,
ouais, on a beaucoup parlé. C'était assez dense, un peu comme d'habitude. Et je pense qu'il est temps de conclure. Ouais, en effet.
Ouais. D'ailleurs, comme d'habitude, je vais remercier tous ceux qui nous suivent au quotidien. Le podcast continue à évoluer, à progresser en termes d'écoute, d'auditeurs, puisqu'on a passé la barre des 150 auditeurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors ça fluctue, hein. Des fois, il y a un petit peu moins, des fois, il y a un petit peu plus. Mais on a une bonne moyenne, 150, donc ça monte. Alors on est encore loin du JT de 20h de TF1, mais on s'en rapproche petit à petit. Et on a, petit à petit, hein, d'ici 30 ou 40 ans, on sera à peu près pareil. Donc c'est, moi en tout cas ça m'encourage au quotidien de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui visiblement nous apprécient puisqu'ils continuent à nous écouter, ils se désabonnent pas au podcast. Et puis par contre, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas beaucoup de retours positifs, négatifs. Alors du positif on en a de temps en temps un petit peu, mais sur le dernier podcast j'ai dû avoir 2 retours et pour nous dire que c'était bien. Donc c'est tant mieux, ça me rassure de me dire que ce qu'on fait c'est bien, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de retour constructif sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on, si vous voulez des invités, enfin peu importe, dites-nous ce que vous aimeriez dans les prochains podcasts. Je remercie les tipeurs toujours, je vais pas les citer, mais il y en a de plus en plus, encore 2 de plus cette semaine, donc qui nous permettent d'investir un petit peu pour vous faire d'autres tests. Et puis je remercie Thomas comme d'habitude. Thomas, merci à toi d'être encore debout, enfin non, de tête levée de bonne heure pour nous, et puis d'avoir écrit toutes ces notes de l'émission et puis de m'accompagner depuis 7 épisodes. Ça fait 7 mois qu'on échange ensemble, donc c'est pas mal, on devient presque des amis, tu te rends compte. Et
c'est exactement ça.
On se demande ce que l'autre fait, c'est tout pareil en fait. je me dis tiens, là il est pas encore couché, tu vois, et moi je vais me coucher, lui en pleine forme. Ça m'arrive de temps en temps, quand on me parle des États-Unis je pense tout de suite à toi, je pense plus à tout ce qui se passe. T'as balayé tous les autres dans ma tête, donc ça c'est plutôt cool, je suis content. Je remercie tous les auditeurs tout simplement. Je te laisse le mot de la fin comme d'habitude, Thomas.
Ouais, bah écoute, merci à toi Nico, c'est vrai qu'on devient des amis, ouais, en effet, on est des amis podcasteurs. Et puis comme tu le disais, n'hésitez pas à nous donner du retour, nous dire ce que vous pensez de la durée, est-ce qu'on parle beaucoup trop, est-ce qu'on parle beaucoup trop. Donc voilà, tout commentaire constructif est le bienvenu. Et puis voilà, encore une fois, vive les Chromebooks, et puis au prochain épisode.